Une des pièces les plus connues de la formation Radiohead, qu'on a pu entendre cette pièce, No Surprises, dans près d'une vingtaine de films ou séries télé depuis la sortie de cette pièce en 1997, No Surprises.
Actualité culturelle, Denis Villeneuve sera l'un des invités de la 36e édition des Rendez-vous Québec Cinéma. Le réalisateur de Blade Runner 2049 donnera une leçon de cinéma le dimanche 25 février à l'auditorium de la Grande Bibliothèque, a-t-on annoncé hier matin lors du dévoilement de la programmation. Son récent film sera aussi présenté dans la section Projection spéciale. Le festival proposera un menu de 309 films, dont 90 premières. Le long-métrage « Pour vivre ici » de Bernard Aymont ouvrira le bal le soir du 21 février. Avec Patrick Huard comme porte-parole, les rendez-vous Québec Cinéma auront lieu du 21 février au 3 mars, principalement à la Cinémathèque québécoise, mais aussi à l'Impérial au Quartier Latin et au Centre Pierre Péladeau. Invitation pour ce soir au Centre communautaire de l'Est à Pierrefonds. 19h, il y aura une rencontre d'auteurs avec Patrick Nicole qui parlera de son métier d'écrivain, de son œuvre et particulièrement de son livre « La nageuse au milieu du lac » dans lequel il raconte la vie de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et j'aurai le plaisir d'animer cette rencontre ce soir à Pierrefonds. Nick Murphy, Feist et le rappeur américain Lil Uzi Vert se produiront au festival Santa Teresa qui aura lieu à Sainte-Thérèse du 18 au 20 mai. Il s'agit d'un grand coup des trois programmateurs de l'événement de la Couronne Nord qui en sera seulement à sa deuxième présentation. Parmi les autres artistes à l'affiche, on trouve Wolf Parade, Michael Sparks, Loud, Hubert Lenoir, Milk and Bone, Fucked Up, Chocolat, Dead Hobbies, Heart Streets et Essaie pas. Par ailleurs, Claude Pelgag présentera une grande messe et ce sera l'occasion de voir le groupe de Messthetics qui réunit des membres de Fugazi. Devant le succès public et critique de la pièce « L'homme éléphant », le Théâtre du Rideau Vert annonce deux autres supplémentaires le 28 février et le 4 mars prochain. Dans le rôle-titre, Benoît McGuinness démontre qu'il sait allier finesse et émotion dans un rôle physique très éprouvant. La directrice générale de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma, Sartec, change de visage. Le conseil d'administration a annoncé lundi la nomination de Stéphanie Hainaut comme directrice générale en lieu et place d'Yves Légaré, qui, après 29 ans au service de la société, prendra sa retraite le 30 mars. Diplômée en études cinématographiques et en droit de l'Université de Montréal et membre du Barreau du Québec, Stéphanie Hainaut a touché tant à la création comme scénariste et réalisatrice ainsi que productrice notamment, qu'à la gestion culturelle et la planification, entre autres pour l'UDA et la DISC, dans un esprit de concertation et de valorisation. Elle s'engage à poursuivre dans cette voie à la SARTEC. Les efforts concertés du milieu culturel sont essentiels pour permettre aux œuvres d'ici d'être valorisées, à leurs créateurs d'être justement rémunérés et ultimement à notre société de s'identifier à des valeurs communes, a-t-elle précisé par voie de communiqué. Le crooner Vic Damone, dont la voix lui a valu d'être décrit comme ayant les meilleures cordes vocales de l'industrie par Frank Sinatra, rien de moins, ça c'est moi qui l'ajoute, est mort en Floride à l'âge de 89 ans, a indiqué sa fille lundi. Victoria Damone a confirmé que son père est mort dimanche dans un hôpital de Miami Beach de complications liées à une maladie respiratoire. Les ballades romantiques de Vic Damone lui ont permis de vendre des millions d'albums et de faire carrière pendant un demi-siècle. Après avoir remporté un concours de talent à la radio, Vic Damone a vu sa carrière commencer à prendre de l'ampleur. Ses succès incluent Again, You're Breaking My Heart Cries For You, On the Street Where You Live et en 1957 la chanson-titre du film de Cary Grant, An Affair to Remember. Vic Damone et Frank Sinatra, aux côtés de Tony Bennett, Perry Como, Dean Martin et d'autres, ont formé un groupe d'Italo-Américains qui ont dominé le domaine de la musique pop d'après-guerre. Margie Gillis n'est pas de retour puisqu'elle n'a jamais quitté la scène. Sa nouvelle chorégraphie met de l'avant toute son énergie, sa sensibilité, son humanisme et cette fois son désir de transmettre. Deux complices marcheront dans ses pas de danseuse et de chorégraphe libre, soit Troy Ogilvy et Paola Styrone. Viriditas est la preuve pour son auteur que le contact entre humains et la pratique de l'art peuvent régler bien des conflits. Le spectacle est présenté à guichet fermé du 14 au 17 février à l'Agora de la Danse. Testament de Johnny Hallyday, une famille à couteau tiré. Une longue bataille juridique s'annonce autour du testament de Johnny Hallyday, mort d'un cancer le 6 décembre 2017 à 74 ans. Les enfants du rocker ont annoncé qu'ils allaient contester le testament de leur père qui confie l'ensemble de son patrimoine et de ses droits d'artiste à sa seule femme, Laetitia, par l'effet de la loi californienne. Portrait d'un clan divisé, c'est un article d'Olivia Levy dans la presse d'aujourd'hui. Les déshérités, Laura Smet, 34 ans, comédienne, fille que Johnny Hallyday a eue avec Nathalie Baye. David Hallyday, 51 ans, fils issu de son mariage avec Sylvie Vartan. Laura Smet et David Hallyday ont annoncé hier qu'ils contesteraient le testament de leur père. Celui-ci contreviendrait aux exigences du droit français, où les enfants ont droit à une part de l'héritage, ont indiqué leurs avocats. « J'ai appris il y a quelques jours que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement David et moi », a écrit Laura Smet dans une lettre posthume qu'elle adresse à son père et qui a été transmise à l'agence France-Presse. « Toutes ces fois où on a dû se cacher pour se voir et s'appeler ». Il m'est encore insupportable de ne pas avoir pu te dire au revoir, papa. Le sais-tu au moins? Je t'entends, papa. Et moi, j'ai choisi de me battre, écrit-elle. Les héritières, Laetitia, 42 ans, veuve de Johnny Hallyday, Jade et Joy, filles adoptives du couple, âgées de 13 et 9 ans. Laetitia, qui avait épousé Johnny Hallyday en mars 1996, est l'unique héritière du patrimoine et des droits d'artiste du rocker en vertu du testament du défunt. Le testament prévoit également qu'en cas de décès de Laetitia, tous les biens de la star seraient exclusivement transmis à ses deux filles, Jade et Joyce, à part égale. Non pas Joyce, mais Joy. Laetitia a exprimé hier son écœurement face à l'éruption médiatique autour de la succession de son mari. Elle a dit regretter que Laura Smet et David Hallyday aient choisi la voie médiatique plutôt que de s'en tenir à un cadre familial et juridique. Elle se dit sereine et entend consacrer toute son énergie à faire respecter l'œuvre et la mémoire de son mari. L'enjeu, dans le droit français, on ne peut écarter ses enfants de sa succession. Il y a ce qu'on appelle la réserve héréditaire, ce qui n'existe pas en Californie. L'enjeu est grand et complexe, car il faudra déterminer quel était le lieu du domicile principal de Johnny Hallyday pour savoir quelle sera la loi qui sera appliquée à son testament. Johnny Hallyday vivait entre la France, les États-Unis et l'île de Saint-Barthélemy, où il a été inhumé. Ce que laisse la star rock, il y a son patrimoine immobilier, des motos et voitures de collection, ainsi que les droits de ses 1300 chansons.
N'être personne, n'être personne. Quand midi sonne, n'être personne. Avouez que le soleil n'a jamais jugé personne. Avouez que le soleil, c'est sans compter qu'il se donne. Et ce n'est pas la nature, mais bien la nature de l'homme qui nous fait parfois conclure qu'on peut n'être des temps personne. Quand midi sonne, être un point sur le papier, n'être personne. N'être personne. N'être personne. Quand midi sonne, n'être personne. Avouez que nos grands livres ne tiennent plus vraiment la route, quand nos idéaux dérivent, quand nos rêves sont en déroute. Avouez qu'on sacrifie pour l'ordre ou son semblant des nations que l'on oublie dans la cendre et le sang. Quand midi sonne, être un pion sur l'échiquier, n'être personne. Seulement surpris si s'étendent l'orgueil et le mépris. Oui, sommes-nous seulement surpris si en certains soirs on se dit: avouez que tout se tient, tout est bien amalgamé, et que l'homme est une femme ou cet enfant basané. Avouez que l'humanité s'accorde au singulier, et que nous sommes faits de chair, d'eau, de feu, de fumée. Quand midi sonne, être maître ou sacrifié, n'être personne. N'être personne. N'être personne. Quand midi sonne, n'être personne, n'être personne, n'être personne, quand midi sonne, n'être personne.
Et on vient d'entendre Luc de la Rochelière avec la pièce N'être personne.
Thank you.
Mardi Gras, chanter, danser, mais surtout dénoncer le carnaval d'Haïti apparaît comme un moment exceptionnel de subversion. C'est un texte de Philippe Renaud du Devoir, collaboration à Port-au-Prince. De Venise à Rio, en passant par la Nouvelle-Orléans, Bogota et Port of Spain, des rues seront aujourd'hui bondées pour les fêtes du Mardi Gras. Ses danses, ses rythmes, ses costumes extravagants, ses excès et ses transgressions. Le carnaval est un défoulement collectif durant lequel le simple citoyen devient roi et le pouvoir sujet aux railleries et voire aux contestations. De toutes les nations célébrant la veille du carême, Haïti est la scène des musiques de carnaval les plus revendicatrices et militantes, alors que la majorité des merengues carnavalesques agacent le pouvoir. Haïti n'a certes pas le monopole du carnaval politisé. Le carnaval de Rio retrouve sa verve politique que titrait hier le journal Le Monde, alors que le traditionnel défilé brésilien des jours gras, les trois jours précédant le mercredi des cendres, premier des 40 jours du carême, a donné l'occasion aux cariocas de s'en prendre au pire maire de l'histoire de Rio. Marcello Crivella, dénoncé pour son puritanisme et son aversion pour les libations carnavalesques, à Trinidad et Tobago, si le soca s'accompagne généralement de textes inoffensifs, les chanteurs de calypso, eux, font de leurs compositions des éditoriaux tournant en ridicule les politiciens. Ni les musiciens brésiliens, ni les trinidadiens, dont le verbe acerbe est pertinent des auteurs-compositeurs-interprètes haïtiens. Ça prend du courage pour faire des chansons aussi engagées politiquement et socialement, estime Stéphane Lacroix, journaliste et animateur pour Téléradio Métropole, à Port-au-Prince, et spécialiste de la musique créole. À une certaine époque, c'était beaucoup plus difficile de s'exprimer. On connaît bien l'histoire de notre pays, le droit à la parole en temps de dictature, point de suspension. Aujourd'hui, c'est la démocratie. On peut dire ce qu'on veut. Et beaucoup de musiciens disent justement tout haut ce que bien des gens pensent tout bas. Dans son livre « Histoire du style musical d'Haïti », publié à Mémoire d'Encrier 2014, le musicologue et professeur associé à l'Université du Québec à Montréal, Claude Dauphin, souligne qu'à Haïti, où le quotidien est régi par de fortes symboliques de classe sociale, le carnaval apparaît comme un moment exceptionnel de subversion. Renversement des rôles, aplanissement des barrières, réfutation des comportements appris. Le discours contestataire fait aisément son nid dans cette fête traditionnelle, souligne le musicologue. Sur le plan collectif, le carnaval apparaît comme la réalisation d'un grand brassage social. Tous les ans, cette puissante symbolique du carnaval exerce son rôle de soupape de sûreté reportant dans un avenir mythique l'implacable raz-de-marée populaire qui emporterait les beaux quartiers comme fétus de paille. Tout est politique. La période du carnaval, qui débute un bon mois avant le Mardi Gras, est la plus importante manifestation culturelle d'Haïti, affirme Darline Honoré, journaliste au quotidien Le Nouvelliste. C'est une formidable vitrine où tout le monde peut se permettre de tout dire. Sans censure? Depuis peu, les propos jugés indécents, sexuellement ou misogynes, sont amendés. Mais la prise de position politique, elle, ne serait pas brimée, juge la journaliste qui ajoute que, de toute façon, tout dans le carnaval est politique. Car la fête est organisée par un comité relevant du ministère de la Culture, lequel la finance par des subventions, au bas mot, 320 millions de gourdes, soit 6,3 millions de dollars selon le rapport Cartographie de l'industrie haïtienne de la musique, publiée l'an dernier par l'Association haïtienne des professionnels de la musique et l'UNESCO. Ce même comité, mis en place par le gouvernement, décide quels orchestres auront le droit de parader au Grand Carnaval national, mais les critères de sélection ne sont pas clairs. On ne sait pas pourquoi tel ou tel artiste n'est pas retenu pour le défilé du Carnaval national, observe Stéphane Lacroix, qui joint sa voix à plusieurs autres observateurs de la vie musicale haïtienne, pour demander davantage de transparence. Ainsi, les artistes ne sauraient éviter le sujet politique, d'autant que le comité a lui-même politisé le thème du carnaval de cette année, rappelle Darline Honoré. Le slogan officiel? Haïti sous route changement. Alors, entre parenthèses, Haïti est sur la route du changement. Un thème perçu par certains observateurs comme une propagande pro-gouvernementale. La réponse musicale n'a pas tardé par la bouche du musicien Bic et sa populaire chanson « Haïti sous Woutlipa Dewiye ». Entre parenthèses, Haïti n'est pas sur le bon chemin. Alors j'imagine que moi non plus, en ce qui concerne la prononciation, je suis allée avec la lecture à la française, si je puis dire. Il y a dans ce merengue carnavalesque la radiographie de notre société avance Darlene Honoré. Aujourd'hui, personne n'incarne mieux la délicate lutte de pouvoir qui se joue en coulisses que l'auteur-compositeur-interprète Rudy Rodeboy, qui brille de tous ses feux, explique Stéphane Lacroix grâce à son formidable merengue intitulé « Où Michan ». Sur une entraînante rythmique électronique, le natif de Port-au-Prince ne ménage personne. Ce qu'il a fait, c'est qu'il critique tout. Il critique le gouvernement, mais il critique aussi l'opposition. Il dénonce le fait que les enseignants ont du mal à recevoir leur paye, mais il dénonce aussi la casse des manifestations. C'est une des raisons pour lesquelles il a autant de succès. Or, après son triomphe au carnaval de Delma et des Gonaïves ces dernières semaines, le comité organisateur avait écarté Rudy Rodeboy du grand défilé. Pourquoi? C'est la question que tous se posent, répond simplement Stéphane Lacroix. Il avait été sacré champion du carnaval l'année dernière. Il a fait ses preuves et son merengue est très populaire. Face aux vives réactions du milieu du public, le comité est finalement revenu sur sa décision. Rudy Rodeboy sera ce soir du défilé, aux côtés du Barricade Crew, T-Vice, des maîtres de la musique racine, Ram et Bookman Experience, et de l'ex-président Michel Martelly, alias Sweet Mickey, qui, lui, avait été écarté des défilés des carnavals des Gonaïves et de celui de Jacmel. Le gouvernement craint-il l'influence des artistes? Je n'irai pas jusque-là, dit Stéphane Lacroix, tout en reconnaissant que les précédents gouvernements aient pu être méfiants face aux groupes ou musiciens qui ont des paroles vraiment tranchantes, vraiment percutantes, très critiques du pouvoir. Certains, d'ailleurs, se sont vus privés de certains privilèges, le premier étant de ne pas être invité au défilé, la plus grande scène qu'un musicien peut souhaiter à Haïti. Saint-Valentin, le repas en amoureux sera l'option la plus populaire auprès des Québécois pour souligner la Saint-Valentin cette année, selon un sondage réalisé pour le compte du Conseil québécois du commerce de détail. 45 % des répondants ont indiqué qu'ils allaient marquer la Saint-Valentin avec un repas spécial à la maison, alors que 36 % prévoient une sortie spéciale au restaurant. Les autres options pour souligner la fête sont un cadeau, 30 % une carte de souhait, 19 % et une activité coquine et confidentielle, 9 %. Au total, ce sont 46 % des répondants qui ont dit qu'ils allaient souligner la Saint-Valentin cette année. En moyenne, ceux qui souligneront cette journée des amoureux prévoient dépenser 67 $. Ceux qui prévoient dépenser le plus sont les personnes de plus de 65 ans, avec un montant moyen de dépenses de 90 $. Les trois types de cadeaux les plus populaires auprès des femmes sont les fleurs, le chocolat et des billets pour un spectacle. Pour les hommes, les répondants ont mentionné que le vin ou l'alcool en général, le chocolat et des billets pour un spectacle étaient les cadeaux les plus populaires. Les trois ont obtenu le score de 22 %. Le sondage a été réalisé via Internet auprès d'une communauté d'internautes, aléatoirement recrutée de 10 000 consommateurs. Au total, 1038 personnes ont participé au sondage entre le 16 et le 21 janvier. Je vous rappelle que la Saint-Valentin, c'est demain. Oui, la Saint-Valentin demain et aujourd'hui, on déclare notre amour à la radio puisque c'est la journée mondiale de la radio en ce 13 février. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Merci à Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Et si vous nous écoutez en direct, je vous attends pour l'émission Les Paractualités dans quelques minutes.